With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et si nous fêtions tous ensemble le 100e épisode ? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mouvement, de trail, de sport sous toutes ses formes, et notamment comment on se lance nos propres défis, même si on n'a pas couru pendant des années, même si on débute dans la course à pied, comment on fait pour se dire que oui, c'est possible, et comment bah, finalement on progresse petit à petit, chacun à notre rythme, chacun avec nos défis, chacun à notre manière. C'est toute l'histoire de ce podcast. Il y a 3 ans, quand je l'ai créé, je voulais seulement expliquer mon parcours, expliquer comment je préparais mon premier marathon, moi qui avais été obèse, hein, qui pesait 105 kilos ou presque quelques années plus tôt, qui n'avait pas couru pendant 25 ans, et je voulais montrer que c'était possible et montrer bah, comment je faisais, quelles étaient les étapes. C'était la documentation de mon premier marathon. Bon, après, j'aurais jamais imaginé que ça allait continuer comme ça. Moi, déjà, ce que j'avais prévu, c'est que ça s'arrête après mon premier marathon, mais comme mon premier marathon était repoussé, j'ai continué un petit peu plus longtemps. Et puis, comme j'ai pris du plaisir et comme j'ai reçu plein de messages de votre part, eh ben, j'ai continué un petit peu plus. Et nous voilà donc au 100e épisode. Mais je n'aurais jamais imaginé la suite, et notamment la communauté. Un jour, dans un épisode, j'ai dit « Nous sommes le club des hamsters. Nous sommes le Hamsters Running Club. » Et Nico, que je salue parce que vraiment c'est un encouragement incroyable, m'a dit « Vas-y, fonce, tu tiens un truc. » Merci vraiment Nico pour ce message. J'ai foncé et depuis le podcast et la communauté se développe. Alors, pour ce 100e, j'ai invité des membres du Hamsters Running Club. Aucune de ces personnes ne se connaissait il y a quelques mois. Certaines ne couraient même pas encore. Tous ont un parcours sportif, des envies, des défis et même des fuseaux horaires différents. Vous allez voir, on est sur plusieurs pays. Mais tous discutent tous les jours via le Hamsters Running Club et la messagerie audio qui est rattachée, le fameux cappuccino dont vous allez entendre parler plusieurs fois. C'est un club bienveillant, solidaire, souriant. Vous trouverez toujours un conseil et un encouragement, quel que soit votre projet, quel que soit votre niveau. En fait, je ne pouvais pas vraiment imaginer fêter cet épisode 100 sans les inviter. Donc, je leur ai envoyé un message en disant bah, « Qui veut venir discuter avec moi pour fêter cet épisode 100 ?» Alors, Lucie, Diane, Sylvain, Christophe, Hermano se sont joints à moi pour fêter ce 100e épisode. Il nous manquait aussi ceux qui ne pouvaient pas venir, Eric, Sébastien, Florence, Mathieu, Laurie, Loïc, Agnès, Arnaud, Frédéric ou encore Benjamin et bien d'autres. Ensemble, nous avons discuté bah, de course à pied, mais à notre manière. Nous avons discuté des objectifs, des premières fois, des objets favoris, de nos rêves, hein, quelle est la course que nous rêvons de faire ou celle qui nous intimide pour certains. Pourquoi nous courons, qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça apporte aussi à nos proches parce que c'est une discussion qu'on a eue. Et puis bah, un petit peu comment regarder l'avenir et déjà se projeter sur la suite et aller déjà viser ce qu'on pourrait faire pour le 200e épisode parce que nous aurons tous progressé les uns les autres. Je dois vous prévenir, c'est une discussion un peu désordonnée mais c'est comme un peloton de coureurs. Hein. Il y a ceux qui courent plus ou moins vite, il y a ceux qui parlent plus fort, il y a ceux qui sont bariolés, il y a ceux qui racontent des blagues et ceux qui sont sérieux, concentrés dans leur domaine. Mais c'est comme ça la course à pied. Nous courons tous comme nous sommes, alors venez comme vous êtes au Hamsters Running Club. Je vous mets le lien pour vous inscrire. Et allons plus loin pour que vous puissiez vous aussi participer directement à cet épisode. Je vous propose bah, de dire sur les réseaux, par exemple sur Twitter et sur Instagram, via une story ou un post, ce que représente la course, le sport, le mouvement dans votre vie, dans votre quotidien. Ajoutez un petit hashtag KM42podcast, taguez-moi @BertrandSoulier et je relierai ça à tout le monde pour faire connaître notre passion autour de la course à pied et montrer ce que ça nous apporte et amener des gens avec nous, parce que ce que vous allez découvrir dans cette discussion, c'est que même ceux qui sont des coureurs depuis très peu de temps deviennent à leur tour des influenceurs à leur manière pour engager d'autres personnes à courir et amplifier le mouvement autour de la course à pied, du mouvement, et ça, c'est bon pour notre santé à tous. Il est maintenant temps d'enfiler les baskets et de partir courir avec les hamsters. Allez, c'est parti. Bonjour les hamsters.
Allez, salut Bertrand.
Comment allez-vous?
Merci.
Très bien.
Ça va, merci.
Ça va.
Alors, je suis super heureux de vous avoir en face de moi. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que c'est le numéro 100. Nous sommes 5, hein, peut-être 6, peut-être 7, on va voir, hein, qui se joint à nous en tout cas. On va accepter d'autres invités à notre petite fiesta du jour pour cet épisode 100. Et bah comme j'y pensais comme ça, je me disais, mais il y a 3 ans quand j'ai lancé le podcast, je n'avais jamais imaginé d'une part qu'il y aurait 100 d'épisodes sur le podcast. Alors, je vais vous dire, en plus, je me suis planté dans la numérotation. Hein. On a déjà dépassé le numéro 100 depuis quelques épisodes, hein, mais je ne sais pas combien on est né, donc je m'étais planté dans la numérotation. Et surtout, je n'avais pas imaginé le concept de hamster, de la communauté, etc. Et il faut le dire, hein, c'est que tous ici, Hein, vous discutez les uns les autres autour de la course à pied, etc. D'ailleurs, souvent sans moi, parce que je ne capte pas aucune des blagues que vous faites entre vous, qui sont sur les cappuccinos, etc. Je préfère le dire. Hein. Ça, c'est les discussions entre vous. Il y en a la moitié, je les capte pas. Mais en tout cas, ce qui fait super plaisir, c'est de voir les discussions qu'il y a autour de la course à pied, du sport, des défis, etc. Et c'est de ça dont on va discuter ce soir. Alors, on va d'abord commencer par faire un petit tour du monde. Hein, de voir un petit peu où vous êtes. Alors, je vous demanderai juste de me dire votre prénom et de me dire où vous êtes et comment vous courez, mais rapidement, d'accord ? Alors, puisque Sylvain, sur la répétition, tu voulais pas le faire en premier, et ben c'est toi qui vas commencer. Et ensuite, on continuera à désigner. Tu diras qui est la personne suivante.
Moi, c'est Sylvain. Je suis en Californie expatrié. Voilà au niveau des présentations. La raison pour laquelle je me suis mis à courir, c'était un défouloir, un échappatoire. Ma femme était enceinte et accumulant de boulot, il fallait un échappatoire. C'était la course à pied, ça demande pas beaucoup d'investissement au départ. Et après, on découvre qu'il y en a plus. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à découvrir les podcasts et à t'écouter. Voilà en gros. Et Diane, à ton tour.
Bonsoir. Salut tout le monde. Moi, je suis une auditrice de Norvège depuis l'été dernier, en fait, et la course, c'était une façon de recentrer avec tous les événements qu'on traverse, se recentrer un peu, de reconnecter un peu avec soi-même. Et puis, par ce biais-là, je suis grande débutante, mais j'ai très vite découvert Kilomètre 42 et je suis encore là aujourd'hui. Voilà. Et Lucie, à toi.
Bonjour, donc moi c'est Lucie, j'habite Le Havre. En fait, moi j'ai commencé à courir après ma grossesse aussi, à mon accouchement, pour me remettre en forme et puis pour avoir aussi un moment à moi. Et finalement, je cours maintenant pour le plaisir, pour me dépasser. Et et j'ai un prochain objectif, courir un marathon. Donc, quand je serai rétablie et quand je pourrai de nouveau courir correctement. Christophe, à toi.
Et ben voilà, à moi. Moi, c'est Christophe. Je suis dans l'Oise, donc au nord de Paris, près de Beauvais. Et j'ai commencé à courir parce que j'avais arrêté de fumer et que c'était pour moi la meilleure chose à faire une fois qu'on avait arrêté de fumer. Donc voilà, et c'est effectivement la meilleure chose à faire, je confirme.
Oui, alors c'est marrant parce que vous avez tous, et nous avons tous des parcours différents. Est-ce que vous vous rappelez du premier jour où vous avez couru ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Alors moi ça remonte à un petit moment parce qu'en fait j'étais encore étudiante. Donc c'était en 2007, ouais. Et c'était... J'ai dû faire courir 5 minutes et ça m'avait semblé, comme pour tout le monde, je pense. Hein, j'avais l'impression d'avoir couru pendant une demi-heure alors que j'avais couru que 5 minutes et j'avais dû faire, 500 mètres quelque chose comme ça. Et sinon, après, quand j'ai repris ma grossesse, je crois que ouais, c'était... j'arrivais pas à courir plus de 1 ou 2 kilomètres en fait. Pendant longtemps, j'ai stagné. Mais au départ, c'est quand même difficile.
À mon côté, en tout cas, au début, je pense que c'était vraiment l'ennui. J'arrivais pas à prendre le plaisir à courir. Et vraiment, cette sensation d'ennui en fait, en courant, de se dire pourquoi courir, c'est chiant. C'est peut-être un des trucs qui a mis du temps à mûrir de mon côté. Je me souviens aussi au départ, ça remontait au niveau des baladeurs CD. Et j'avais acheté un baladeur CD avec l'effet tampon, normalement, qui évitait les vibrations. Et en fait, j'avais le droit à 3 secondes de musique et 30 secondes de silence. 3 secondes de musique, 30 secondes. Donc, ça n'a pas marché non plus. Et il a fallu... J'ai mis plusieurs années avant de me remettre à courir après ça.
Attends, et tu parles de quelle époque, là ?
Celle que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça que dit Hermano, je pense. C'est quoi, les années 95 ? 2000 peut-être dans cette période-là.
Oui, ouais, parce que moi aussi j'en ai eu un baladeur CD, mais je comprends que c'était compliqué de courir avec. Hein. Puis ça devait être chiant dans la poche du short.
J'avais un petit sac à dos, mais de toute façon ça n'avait pas marché. Bon. Ça n'a rien à voir avec le téléphone, les montres ou autre de nos jours. Hein.
Christophe, Diane, vous rappelez-vous de ce premier jour où vous avez essayé de courir ?
Ouais, alors je disais oui. je me rappelle quand je courais au lycée, c'était plutôt aisé, c'était un truc qui était assez facile pour moi. Et quand j'ai repris justement après l'arrêt du tabac, catastrophe, les poumons qui brûlaient, les jambes qui étaient en feu après cette première sortie. Mais malgré tout, j'ai eu l'envie tout de suite d'y retourner parce que j'avais ce désir de me dépasser encore une fois et encore plein de fois par la suite, quoi.
Ouais, pour ma part, c'était... Alors, il y a la première fois au collège où il y a les tours de piste absolument horribles, traumatisants. Ça, c'est le souvenir qui restait. Et la première fois que j'ai recouru l'été dernier, c'était quand même différent, en fait. J'ai senti... c'était une minute pause, une minute, mais j'ai... cracher mes poumons, c'était dur, mais c'était quand même, on sentait la progression arriver vite, quoi. C'était très différent de le faire soi-même que de faire ça à la place du collège.
Oui, mais parce qu'il faut dire, c'est vrai que, et puis j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un prof de gym, c'est qu'au collège, vous êtes forcés à courir, on a tous été forcés. Alors moi, j'étais sportif à l'époque, c'était pas un problème, parce que moi, ça m'amusait de faire des tours de piste, jouer au foot, etc. Mais c'est vrai que pour les moins sportifs, c'était une forcée. Et là, tout d'un coup, vous étiez volontaire pour courir, finalement. Vous vous dites, bah, maintenant, je vais m'y remettre, etc. Mais tu vois, j'ai envie de me dire, l'envie vraiment que vous avez là, comme ça, est-ce qu'elle a évolué depuis ?
Ouais, clairement. Comme je le disais au point de départ, c'est une maturité, en fait, de voir... Il y a encore de ça quelques années, avant, justement, que je me mette à courir, je m'y suis mis en 2016, vraiment fin 2015-2016. Et je voyais les gens et je me disais, mais... Enfin, j'avais entendu parler de cette drogue et d'être addict, en fait, à courir. Drogue à courir. Et je comprenais pas, quoi. Et ouais, il a fallu une certaine maturité, une nouvelle approche, peut-être. Et d'y aller lentement, peut-être. Et de comprendre. Moi, ce qui m'a en tout cas vraiment permis de m'intéresser, c'était de comprendre la dynamique de la course à pied.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pareil. Il y a le plaisir en fait ressenti après certaines séances. Par exemple, certaines séances de fractionné. Il y a des fois, avec des 30-30, 30 secondes et il y a un plaisir en plus du but qui est atteint, de l'objectif qui est atteint. Et en plus, oui, c'est ça. Maintenant, là ça fait 3 semaines que j'ai pas couru à cause d'une blessure. Et c'est vrai que ça me manque, quoi. C'est ce plaisir, en effet, de... Enfin, voilà, ce bonheur d'être peut-être un peu rouge écarlate parfois, mais de sentir qu'on s'est fait du bien aussi et qu'on a passé un bon moment. Et si en plus le paysage est avec nous, de courir au lever du soleil ou avec un temps superbe, moi, quand je cours au bord de l'eau, c'est vrai que on parle parfois de pleine conscience, de courir en pleine conscience. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où c'est comme quand on a médité, ou enfin c'est vraiment un état top, quoi. Pour Il n'y a qu'avec la course à pied que je peux ressentir vraiment ça. Enfin, en matière de sport, j'entends. Et c'est vrai qu'on en devient un peu addict et dépendant à ces sensations-là. Et c'est quand finalement on ne peut plus courir qu'on se rend compte à quel point c'est top, quoi.
Diane, toi aussi, tu sens ce côté un peu, tu te dis, pleine conscience et tout ?
Ouais, surtout que... En ce moment, en plus de ça, il y a les petites fleurs qui sentent bon, et courir en ayant tout le bon air et tout ça, c'est hyper agréable. Et en même temps, on découvre que c'est tout un art. Enfin, on peut pas seulement s'y mettre comme ça. C'est ce que j'ai appris par la force quelque part et dans la douleur un peu. Il y a tout un art autour, en fait, la préparation, les échauffements, et puis aussi apprendre que courir lentement, c'est bien, en fait. Ça me convient vachement bien en plus. Donc, mettre ça à son avantage, c'était aussi quelque chose que j'ai découvert, auquel je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais pas du tout, en fait. Il y a toute cette structure à faire autour, hyper intéressante, qui te force à te discipliner un peu, et ça, c'est bien.
Et Christophe, toi, ta pratique, parce que toi, tu remplaces la cigarette par la course, mais T'es devenu addict à la course ?
Mais carrément. Je suis passé d'une sortie par semaine d'un quart d'heure, et encore un quart d'heure, c'était les grandes sorties déjà à l'époque, des sorties maintenant d'1h30, 1h45, voire 2h parfois, et 3 sorties par semaine. Je ne peux pas m'en passer, effectivement. J'ai fait une coupure en février parce que j'étais énormément fatigué et sincèrement, ouais, comme le disait Lucie, ça a été hyper compliqué d'arrêter, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment important et équilibrant dans la vie pour moi, en tout cas.
Je rajouterais juste un dernier truc. Je pense que quand tes proches te disent « va courir parce que tu nous enquiquines », je pense que c'est vraiment un point où on se dit « c'est bon, c'est dedans, quoi. On est dedans
». Et c'est ce que j'allais vous dire, parce que j'avais eu, il y a pas longtemps, je sais plus à qui j'en ai parlé, qui disait que, il y a des moments quand c'est pas qu'il devenait presque insupportable, mais c'était il y a un moment donné où les proches, ils sentent quand même qu'ils vont dire, vas-y, va courir, quoi, ça va nous faire de la tranquillité à nous aussi. Ils vous l'ont fait, ça?
Oh oui. Oui, j'ai déjà eu des petites remarques comme ça. Ou ma fille, ou mon mari, mais dis donc, ça fait longtemps que t'es pas allé courir là. je crois qu'il faut que tu y ailles. C'est sûr que. Et puis, ou bien c'est en revenant surtout qu'ils se rendent compte à quel point, on est plus apaisé. Enfin, je suis plus apaisée et c'est vraiment pour un équilibre je pense que les proches s'en rendent compte de ça, quoi.
Là, tu rentres, t'as de meilleure humeur, t'as plus de patience parce que tu t'es déchargé et la famille est contente comme ça. Ouais.
Ah, pareil pour moi, en fait, ouais, c'est ça, c'est tu m'as dit, va courir, ça va te faire du bien. Tu seras un peu moins chiant. Et c'est vrai que quand on a des semaines de travail, des fois parfois un peu compliquées, rentrer, si on ne sort pas, ça ne va pas aller, on le sait. C'est vrai que ça modifie particulièrement l'humeur d'aller courir.
Et souvent, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on ne regrette jamais d'être sorti courir. On peut regretter de ne pas être sorti courir, mais je crois que... Parfois, quand je lisais ça sur les réseaux sociaux ou bien dans les revues, de dire oui, même si vous vous sentez un peu fatigué, sortez courir. Et quand on est débutant, on n'a pas forcément envie. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où l'envie, elle vient aussi avec la course à pied. Et c'est clair que moi, c'est ce que je dis aussi Après, ouais, c'est vraiment un état d'esprit, et ça joue vraiment aussi pour la santé mentale et physique, en fait. Que l'activité, enfin, c'est là qu'on se rend compte que l'activité physique, c'est super important. Et ça fait, voilà, c'est pour ça que moi, ma vision de la course à pied maintenant, c'est vraiment pour se faire du bien à la tête, pour se faire du bien au corps, évidemment. Mais il n'y a pas forcément la recherche de la performance, en fait. Mais c'est vraiment un état d'esprit, un équilibre à trouver. Et c'est ça qu'il faut vraiment arriver à développer et à populariser aussi, en fait.
Est-ce que vous avez l'impression d'être devenus des ambassadeurs de la course, un peu auprès de vos proches, de votre entourage, vos collègues de bureau, peut-être, ou je ne sais pas quoi ? Parce que c'est des messages, des fois, que je reçois de certaines personnes qui disent au début, ils ne me comprenaient pas, puis là, ils viennent courir avec moi. Vous en avez converti autour de vous, là, des gens, là ?
Même à mon niveau, tu vois, en postant les résultats sur Instagram après les sorties, j'ai réussi à recruter une personne, quoi. En plus, une personne que je n'avais pas vue depuis des années. Je me dis, ah tiens, tu cours Et voilà, quoi, c'était, ça a permis de trouver un compagnon de course, déjà. Et puis, ouais, tu as des réactions. Tu vois que certains, ils sont peut-être un peu envieux aussi, parce qu'ils voient que tu pars et eux, ils sont devant l'écran d'ordi. C'est marrant. Donc, même à mon niveau, quoi, ça me fait rigoler. Ça fait effet boule de neige, ça, y a pas de doute, quoi, de partager ça avec les autres. Quoi. Bien.
Moi, j'ai recruté ma sœur qui maintenant est motivée. On a fait le semi de Paris connecté d'ailleurs toutes les deux. Et c'est vrai que c'était un bon moment de partage. Et dans ces temps de pandémie, c'était bien de partager, que finalement, même si c'était à distance, comme ça, ce genre de course, de se passer le relais. Et c'est vrai qu'en fait, je sais pas, dans mon ouvrage, peut-être que j'ai une certaine passion quand j'en parle, mais les gens, ils disent, ah ouais, mais ça a l'air trop bien quand t'en parles. Ah non, mais moi, je vais m'y mettre et tout. Et en fait, c'est ça, oui, j'avais un petit groupe là, un petit moment, enfin, j'essayais de les motiver. Et ça a marché. Et il y en a qui ont vraiment aimé. Mais ouais, c'est. Après, je pense que pour les. Enfin, moi, je parle. Enfin, je suis une femme. Donc, je veux parler aussi parce que j'en parle beaucoup plus avec des femmes qu'avec des hommes. Mais je pense aussi que certaines femmes se mettent beaucoup de barrières. Et du coup, quand elles voient que, voilà, je travaille, que j'ai une vie de famille, et que pour autant, ben, j'arrive à aller courir 2 à 3 fois par semaine, ou à aller participer à des courses, des semi-marathons. Et tout, ben, du coup, et que je me prends pas forcément la tête pour le chrono, ça leur, enfin, il y a une certaine barrière, en fait, finalement, qui est franchie avec ça, et elles se disent, ben, pourquoi pas moi, quoi. Et après, j'ai une petite anecdote là-dessus. Donc, en 2020, quand il y avait encore des courses, il y avait le 15 km du Havre. Et il y avait une personne qui avait fait un qui s'était inscrite en fait pour les 5 km de marche, parce qu'elle se disait, non, mais moi le chrono, je veux pas finir dernière et tout ça. Et moi, je m'étais inscrite aux 15 km, donc c'était 3 boucles. Et à la fin de la première, elle a dit, ah non, mais c'est tellement bien de courir avec vous, allez, je repars pour une deuxième boucle. Et finalement, elle avait réussi à courir 10 km en se moquant totalement du chrono. Et franchement, voilà, c'est pas, enfin, on n'avait pas non plus on avait dû courir 10 km en 1h10 ou 1h15, ce qui est totalement correct. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus forcément des records. Mais voilà, c'est ça aussi, je pense que, voilà, il y a peut-être parfois des personnes qui se mettent beaucoup de barrières. Et oui, bon, en toute modestie, j'essaye moi de leur montrer que même si on court un peu lentement, on peut courir. Et je pense qu'avec grâce à toi, grâce au podcast, grâce à cette communauté, ben, il y a cet esprit aussi qui commence à se développer beaucoup plus. Et voilà, dans la bienveillance, dans le partage. Et ça fait du bien, quoi. Voilà, c'était le petit.
Mais je te remercie parce que quand je réfléchis un petit peu, des fois je disais, mais il y a plein de gens qui osent pas courir en fait parce qu'ils disent, ouais, mais il y a des moments où j'arrive pas, puis je cours doucement, et puis les autres ils vont me regarder, etc. Passer ce cap, et puis alors chez les femmes et chez les hommes, on n'a peut-être pas le même esprit par rapport à l'ego, etc. Parce que je suis sûr que ils disent rien les deux gars là, pendant ce temps-là, là, mais. Ça les titille des fois aussi, tu sais, des fois on se traîne. Hein? Non, mais je vois Sylvain qui fait un peu la mimique, mais tu sais, des fois, moi, sur des courses, et je vais le dire très honnêtement, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais des fois, je me fais prendre des fumées par des femmes comme ça qui passent à côté, qui font les montées quand moi je suis à la ramasse totale, etc. Il y en a qui sont vexés par ce truc-là, en fait, qui n'osent pas courir, disent oui, mais je vais finir dernier des courses et tout. Et alors qu'en fait, le principal, c'est déjà de commencer à bouger, à courir.
Ah non, moi ça m'arrive pas à 1h30, puisque je suis toujours premier, donc il n'y a pas de souci, quoi.
Ah oui, mais oui, toi, tu es toujours premier, mais c'est vrai que. Mais toi, en plus, tu es un coureur technologique, toi.
Non. Désolé, désolé. Non, on va remettre la vérité en place. Je suis loin d'être premier. Ça, c'était vraiment justement pour comment faire l'orgueilleux, le prétentieux, mais c'est loin d'être le cas. Non, ouais. Il n'y a pas. Je pense pas de mon côté, en tout cas. Dans un sens, moi, j'ai pas le problème du genre, on va dire. Moi, ce que je vois plus dans les courses, c'est quelqu'un de plus âgé qui me dépasse. Et ça m'est déjà arrivé. Et alors là, je sais que tu l'as raconté, ton expérience, c'était l'année
Ouais.
dernière, si je me souviens bien.
Ouais.
Et là, ça te fout une claque en te disant, t'es supposé courir moins vite parce que t'es plus vieux que moi. Et t'es en train de me foutre une. Voilà, t'es en train de m'en mettre une bonne, quoi. Et bon, je pense que ça a été en courant, c'est ce qui a été le plus difficile. Quand tu vois les petits genoux, c'est sûr que c'est dur. Mais bon, après, il faut te dire que justement, tu te dis, ah, bah, je suis plus âgé, donc tu te réconfortes. Mais ouais, mais quand tu vois que tu as quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi, ou même encore plus, et qui te dépasse, là, tu te dis, bon, mon gars, il faut peut-être que tu t'entraînes quand même un peu plus sérieusement parce que tu es loin, quoi.
Et Christophe, toi, ça t'arrive ce truc-là de te dire, oh là là.
Non, non, non. Très honnêtement, en fait, je pense pas regarder la course à pied par le regard de la performance. J'ai pas cet œil-là sur cette pratique. Enfin, voilà, bien sûr, j'ai ce désir de m'améliorer, hein, d'être meilleur chaque fois, mais me faire doubler, de toute façon, je me fais souvent doubler, soyons clairs. Voilà, je suis un coureur lent, je le sais, je l'assume, et ça me gêne pas, a fortiori. Donc, moi, voilà, c'est pas embêtant que ça soit une fille qui me double, que ça soit une personne âgée qui me double. L'important, c'est que les gens soient en mouvement. Hein, voilà, donc je suis en mouvement, et les gens qui me doublent, bah, sont en meilleur mouvement que moi. Mais voilà, le truc est là, c'est que bah, on prend son pied dans la pratique, quelle que soit la performance. Et puis, voilà, le jour où j'aurais décidé de regarder par le côté de la performance et de faire des courses et des résultats, bah, j'envisagerais la course autrement.
Est-ce que vous avez, parce que bon, Lucie, oui, tu l'as dit, tu mets des dossards, t'inscris à des courses, etc. Mais est-ce que vous tous, vous participez à des courses? Alors, bien sûr, c'est l'année 2020-2021, c'est un truc un peu particulier. Mais est-ce que, par exemple, vous attendez de voir un dossard, de pouvoir raccrocher un dossard ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez jamais fait, c'est quelque chose que vous avez envie de faire mais qui vous fait un peu peur? Comment vous voyez un peu les courses, vous, comment vous voyez ce truc-là, là?
Les courses, c'est une motivation. Je pense que dans un sens, ça te permet quand même de te mettre un gros objectif, ce qui te motive à sortir des fois tôt matin ou tard le soir après une longue journée. C'est ce qui te motive. Enfin, j'allais dire tout à l'heure aussi, il y a une autre motivation que de ma part j'ai trouvée grâce au podcast que tu as fait, mais aussi au groupe que tu as monté derrière. C'est justement, enfin, ce groupe des hamsters, après ce qu'on partage aussi avec le cappuccino. On se motive l'un l'autre. Je prendrai l'exemple de Diane qui suit un programme depuis 7 semaines et indirectement, chacun son programme, chacun sa vitesse. Mais le fait d'écouter quelqu'un qui le suit et qui va sortir, tu te dis, bon, bah, allez, moi c'est pareil, quoi. Enfin, c'est vraiment des motivations. De mon côté, j'ai déjà fait quelques courses. Là, je suis en train de titiller pour un semi-marathon. Je reste de l'ordre du semi-marathon pour le mois de novembre. Et puis, voilà, quoi. Le marathon le jour de mes 42 ans, peut-être aussi, ou en tout cas l'année de mes 42 ans. Ça, je copierai quelqu'un sur cette idée, mais j'ai encore un petit peu de temps avant que ça arrive, pas trop longtemps, mais donc pour le moment, je me focalise sur le semi.
Moi, j'avoue que c'est vrai que moi j'ai repris la course à pied après la naissance de ma fille, par exemple pour m'inscrire, enfin, pour avec comme objectif de courir la Parisienne, qui était une donc course de 6 km. C'est vrai que moi, les premières années, même mon mari me disait que j'en faisais trop, quoi. C'était, bah, comme j'habitais Paris, c'était facile. Il y avait une course. Entre janvier et mars, il y a facilement une course par semaine, en fait. Alors moi, je les faisais pas toutes les semaines, mais il y a chaque arrondissement aussi a ses courses. Donc c'est 10 km. Donc voilà, on peut facilement faire une voilà tous les 15 jours ou tous les mois. Et c'est vrai que voilà, il y avait au départ, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. C'est amasser les médailles et montrer et tout. Et après, c'est vrai que par exemple pour le semi-marathon. Là, la motivation, c'était vraiment plus personnel. C'était parce que j'ai une amie, ma meilleure amie qui est décédée. Et on avait pour objectif de courir ensemble le semi-marathon de Paris. Et du coup, voilà, c'était en octobre 2015 et je courais à l'époque entre 2 et 5 km. Et du jour au lendemain, donc je me suis inscrite pour le semi-marathon de mars 2016. Et donc je me suis lancée dans ce programme-là et j'ai fait des voilà j'ai progressivement moi, je suis passée de 2 km à 21 km en l'espace donc de pas beaucoup de mois, de 4 mois. Et là, ça a été aussi un déclic pour moi. Et en fait, maintenant, les semi-marathons pour moi, et surtout semi-marathon de Paris, par exemple, c'est vraiment il y a voilà c'est une motivation, et puis c'est aussi rendre hommage à mon ami à ce moment-là. Et là, pour le marathon, j'avoue que la motivation, bah déjà, c'est le marathon, et la motivation supplémentaire, et là, c'est une petite dédicace, c'est de pouvoir le courir avec Redouane, un de tes invités de ton podcast. Et ça, c'est vrai que voilà, lier l'objectif vraiment de dépassement de soi, du personnel, et en même temps de pouvoir partager ça avec d'autres personnes et dont Redouane, c'est vrai que ça, c'est ça qui me motive là actuellement pour reprendre et un niveau correct pour pouvoir courir le marathon quand il aura lieu, j'espère, en octobre prochain.
Ouais, il faut croiser les doigts, hein, parce que puis Redouane, il a fait des progrès en course. J'ai vu l'autre jour ses vidéos. Enfin, franchement, faut saluer, parce que moi aussi, j'aurais bien envie de le faire, le marathon de Paris, avec lui, en fait. Parce que moi, je cours pas, ce que je disais, je vous le disais tout à l'heure, ma fille court plus que moi, hein, quand je fais 8 fois 1 minute, je suis content. J'ai fait 15 fois 1 minute l'autre jour, en sandales, je dis, waouh, ça y est, genre, je suis revenu presque un coureur, etc. Mais c'est vrai que cette histoire de course, moi, je m'étais rendu compte, que quand je mettais des courses à mon programme, eh ben, ça me motivait plus pour aller courir, pour avoir un objectif, une organisation, etc. Et que cette année où il n'y a rien, et ben des fois il y a des trucs qui sautent plus facilement, parce que je me dis ouais, mais c'est pas grave, t'as rien à préparer, tu t'en moques un peu, ça reviendra, etc., plus tard et tout. Diane, je sais pas si toi t'envisages de faire des courses.
Mais c'est une bonne question, parce qu'au départ le but c'était pas de mettre des dossards. Quand j'ai commencé, c'était améliorer l'endurance et pas regarder le chrono, quoi. La force d'être avec cette communauté et d'entendre le plaisir que certains prennent à participer à des courses, à entendre les préparations, à suivre les préparations des autres au fur et à mesure, ça donne envie quand même. Donc, je me disais, ouais, dans 2 ans, j'aurai 42 ans et peut-être que je pourrais viser un marathon, j'en sais rien. Ça m'a inspiré aussi. Mais le 5 juin, là, on a un semi qui s'arrange. Bon, ce ne sera pas pour moi cette année, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais à voir si je tiens au niveau de l'entraînement, là, c'est... peut-être envisageable.
Waouh! Alors là, sur ces bons mots, tout d'un coup, quand on parle de compétition, voilà que débarque Hermano. Oui. Alors, ça, c'est un truc, ça, c'est incroyable, Hermano.
Un peu en retard.
T'arrives avec, allez, 30 minutes de retard, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est pile, vous avez remarqué, quand on parle de compète, on a le compétiteur qui arrive comme ça, là, tout chaud, je suis sûr qu'il est chauffé. Je suis sûr qu'il va nous dire qu'en plus il est inscrit à une course. Je suis sûr qu'en plus il va nous dire qu'il a trouvé une course à laquelle s'inscrire.
Bah, tu sais bien que je suis inscrit à une course, c'est celle à laquelle tu fais défaut.
Bon, c'est vrai.
Mais c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Et puis, non, c'est tout pour l'instant. C'est la seule course à laquelle je suis inscrit.
Mais c'est vrai que on devait participer normalement au swimrun en édition ultra, hein. Bon, là, moi, je suis déjà que je savais pas nager, maintenant je sais même plus courir. Donc c'est pour repasser comme ça. Non, mais c'est vrai, disons-le. Bon, Hermano, alors il faut le dire, parce que c'est vrai qu'on a commencé, on a fait les présentations, mais toi, tout le monde te connaît, Hermano. On sait que t'es le dauphin luxembourgeois, hein, donc il y a aucun problème là-dessus. On parlait des courses, on disait à quel point ça nous motive ou ça nous motive pas.
Je serais bien mal placé de te dire que ça me motive vraiment, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de course, et puis sur l'année prochaine, je m'oriente pas vers une course avec un dossard, je m'oriente plutôt vers un off.
Et oui, avec ton projet. Et Christophe, toi, en fait, alors on n'a pas parlé, tu fais des courses, tu fais pas de courses, ou tu fais des off peut-être, ou tu te lances dans des défis à toi?
Pas encore. J'ai pris mon premier dossard qui sera virtuel pour basket au pied, qui nous a été présenté par Laurie, une des hamsters du cappuccino également. Et ce sera une première course avec dossard pour moi. Après, je pense en prendre d'autres. Il y a des courses qui me font rêver. Donc, pour s'aider, je crois que c'est un peu mort. Mais j'ai bien envie de me faire, par exemple, une Paris-Versailles ou quelque chose comme ça, quoi.
Ouais, il y a des trucs sympas en région parisienne.
Oui, Paris-Versailles, c'est vrai que c'est un de... Moi, je l'ai fait une fois et c'est vraiment une course... franchement, dans toutes les courses parisiennes, s'il y en a une à faire, c'est celle-là, parce qu'elle est magique. De partir de Paris, la Côte de Garde, et arriver après au château de Versailles... rien que d'en parler, je mets les étoiles plein les yeux et ouais, non, c'est franchement, c'est un bon choix, Christophe.
La seule année où je devais la faire, elle a été annulée et c'était pas l'année dernière.
Paris-Versailles, est-ce qu'ils la font cette année? 31 octobre 2021. Allez, Tu te sens chaud là pour le faire ?
Pourquoi pas ? S'il y a un hamster pour m'accompagner, je serai preneur.
Allez, on peut en faire une course des hamsters ?
Non, elle est pas. Allez, je crois qu'elle a été annulée.
En fait, je suis pas certain qu'elle soit maintenue ou pas. Hein, ça sera à regarder.
Non, j'ai l'impression qu'elle est annulée là. J'avais reçu un mail fin avril qui disait qu'elle était annulée cette année normalement. Peur de. Au niveau financier, ils préféraient. Ne pas la faire, je crois.
Oui, effectivement. Alors, ils l'annoncent le 25 septembre 2022. Ce qui te laisse, Christophe, finalement, un an de plus pour être prêt pour cette course-là.
Ça devrait le faire.
Moi aussi, d'ailleurs, en passage, hein, si tu devais y aller, ça me laisserait un peu plus de temps pour être prêt.
Bon, ça te fera un objectif, Bertrand, pour l'année prochaine. Mais il me semblait que l'année prochaine, tu étais plutôt partant pour l'ultra.
Hein ? J'ai pas entendu. Et non, mais après, je sais pas, franchement, j'en sais rien. C'est vrai, après, moi, l'objectif, je vous rappelle, c'est l'Ironman 2023. Donc, l'an prochain, on sera en 2022. Donc, il va falloir que je commence à nager un petit peu. Il y a que si je me laissais tenter par des différents trucs, etc., j'en sais rien. En fait, je me dis peut-être qu'on pourrait faire le tour du monde, aller voir Diane pour courir un trail, aller voir Sylvain pour courir. Je sais pas d'ailleurs ce qui se court en Californie, Sylvain, s'il y a des trails, s'il y a de la course sur route, c'est quoi qui se court le plus ?
Je crois que le. C'est un peu difficile à voir, parce que je suis quand même dans une zone où il y a moins de courses en général. Il faut plutôt quand même partir aux alentours. Quand je dis aux alentours, c'est 2 heures à peu près, plus ou moins de route. Donc, je pense quand même que le trail amasse plus de monde, parce que c'est peut-être plus orienté vers la famille, dans le sens où tu peux aller avec tes gamins et tout. Mais bon, je sais que par exemple, le marathon ou semi-marathon de San Francisco est bondé, celui de Los Angeles aussi. Donc, ouais, j'aurais tendance à penser que ce serait un peu l'effet trail aussi.
Alors que chez Diane, en Norvège, il y a ces trails. C'est incroyable. Quand on regarde les trucs, il y a des distances, il y a des montagnes, etc. Ça a l'air chouette de courir là-bas quand même. Hein.
C'est pas pour rien. Je me dis que Kilian Jornet a déménagé là-bas, en fait. Parce que c'est un vrai terrain de jeu pour les amateurs de trail. Il y a tous les types de dénivelé. Et ça, à deux pas de. Des villes, des campagnes, peu importe où on est, quoi. Par exemple, le semi-marathon dont je parlais là, qui est le 5 juin, en fait, ils appellent ça un semi-marathon, mais il est en montagne, en fait, c'est une course de trail. Donc, la plupart des courses, c'est pas sur route, c'est sur les sentiers, quoi.
Mais c'est vrai qu'avec un peu de chance, si on vient chez toi, bon, ça fait un peu loin, mais ce serait bien de réussir à croiser Kilian, ça pourrait être sympa.
Le seul problème, c'est qu'Hermano, quand il va venir en Norvège, c'est à la nage. Alors,
écoute, maintenant que je vais me lancer dans le swimrun, j'espère bien qu'un de ces quatre, j'arriverai à aller à Otillo. Par contre, il va me falloir un partenaire de course.
Eh ben, ça sera pas moi. En tout cas, tiens d'ailleurs, tu fais du trail, Lucie, ou tu fais que de la route
Pour le moment, je fais que de la route. J'ai fait aussi une randonnée là l'été dernier et du coup je sais pas, peut-être j'essaierai peut-être justement de faire un peu de la rando course et peut-être aller jusqu'au trail, mais comme j'ai des articulations au niveau des genoux et tout ça un peu fragiles, genoux et chevilles, j'appréhende un peu, donc c'est vrai que quand j'étais jeune, collégienne, je faisais des crosses, donc j'aime bien aussi courir dans la forêt, puisque au Havre on a la mer, mais on a aussi des superbes forêts, et c'est vrai que c'est agréable aussi, mais j'avoue que j'ai jamais osé me lancer sur un trail pour le moment. Mais peut-être qu'un jour, ça, j'y passerai. Et puis, j'ai entendu dire que c'était sympa aussi le trail. C'est une autre manière de courir, en fait. Donc, pourquoi pas. Si l'occasion se présente, pourquoi pas, ouais.
Et puis, il faut le dire, hein, c'est que sur les régions, il y a des trails qui sont finalement plus de la course sur des chemins assez larges, où il n'y a pas trop de montées, il n'y a pas trop de trucs escarpés, etc. Parce qu'un trail entre les Alpes et un trail entre la Bretagne ou la Normandie, on ne peut pas dire que ce soit le même type de dénivelé, de montagne, de choses comme ça. Non, mais c'est vrai. Et donc, on a des parcours totalement différents. Et même moi, en Auvergne, je peux vous garantir qu'il y a des trucs qu'on appelle des trails. C'est de la course sur chemin un peu large, vous voyez, des choses comme ça. Mais qui changent un petit peu des routes, qui changent un petit peu des parcours, etc. Bon, ils nous mettent une petite côte, ils nous mettent un peu de parcours, mais ça peut être intéressant. C'est pour ça que je dis aussi, puis pour les articulations, l'un des avantages, c'est que c'est souvent des terrains plus souples. contrairement à ce qu'on peut croire, que la route qui tape, etc. Pour ça aussi, que ça peut être extrêmement intéressant. Tant qu'on est sur les courses, tiens, est-ce qu'il y aura un truc comme ça, là, qui, pour vous, vous fait rêver, comme un endroit où vous avez envie d'aller en courir, une course que vous rêvez de faire, etc. Un truc que vous dites, ah, ça, j'espère bien le faire un jour.
Moi, par exemple, c'est le marathon de New York. C'est très bateau, c'est très cliché, mais j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui me tenterait un jour. J'ai vu plein de retours d'expériences, des vidéos et tout. Et surtout, après avoir vu aussi le documentaire Free to Run, quand on voit comment ça a commencé et tout ça, l'esprit de la course, voilà, c'est maintenant, même si maintenant ça s'est beaucoup plus démocratisé et que ça n'a quasiment plus rien à voir avec le tout début. Mais je sais pas, c'est vraiment un lieu mythique. Allez, pas pour mes 40 ans, mais peut-être pour, peut-être pour mes 40 ans en même temps, ou mes 50 ans. On verra au budget, budgétairement et financièrement. Mais ouais, moi, ça serait le marathon de New York.
Bon, le truc que j'aimerais bien faire, qui se fait beaucoup ici, en gros, on n'est pas. J'habite dans une ville qui s'appelle Bergen et on n'est pas un véritable citoyen de cette ville si on n'a pas fait une course. Et c'est des escaliers qui ont été refaits par des Sherpas récemment. Il y a un dénivelé de 300 mètres, un truc comme ça. Et c'est c'est une course qui se...
Ah, c'est du kilomètre vertical.
Enfin, ça se monte en 40 minutes quand on monte tranquille. Mais les plus dingues, ils font ça en 9 minutes, quoi. Alors, t'es censé le faire en courant. Participer à ça, déjà, je crois que le record pour les femmes, c'était 12 minutes. Mais ça, ouais, ce serait peut-être le premier truc sympa à faire dans le genre. C'est ça, c'est vertical. Hein.
Et Christophe ?
Alors moi, le rêve, mais il est inatteignable, le rêve. En fait, c'est une course qui me fait rêver parce que voilà, les paysages sont magnifiques. Mais bon, voilà, c'est le grand rêve de la Réunion, cette fameuse diagonale des fous avec ce départ de Saint-Pierre. J'ai vu plein de reportages là-dessus, c'est démentiel. Et voilà, pour moi, pour l'instant, j'estime que c'est inatteignable. Après, qui sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. Voilà.
Pourquoi tu juges que c'est inatteignable, en fait ?
J'estime pour l'instant pas avoir le niveau pour... après, tout se fait avec le temps, hein, bien entendu. Mais je sais que c'est une course qui est assez... il y a un nombre d'inscrits assez limité pour les hors résidents de l'île. Donc, je crois que c'est 1000, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 1000 coureurs hors population de l'île. Donc, c'est déjà select. Une sacrée dose d'entraînement que je n'ai pas encore.
Tu sais, ça ne veut rien dire. Hein. Moi, je me souviens très bien que j'ai grandi avec un ami dont j'ai toujours cru que les parents avaient toujours été coureurs. Et en fait, il m'a rappelé il y a quelque temps qu'ils avaient découvert la course à 40 ans. Et elle a fini championne de France, vétéran de marathon et de 100 km. Ils ont fait la diagonale des fous, ils ont fait la muraille de Chine. Donc, un, il est jamais trop tard. Et deux, c'est pas parce que tu crois que t'as pas le niveau maintenant que tu l'auras jamais dans 10 ans ou dans 15 ans.
C'est rassurant, je te remercie.
Et Sylvain, toi, t'as un truc qui te fait rêver ?
Le premier marathon actuellement, c'est vrai que j'espère que ça sera en tant qu'expatrié, tu vois, ça serait Paris. Je sais que c'est peut-être bateau de votre côté. Mais bon, ça serait le faire dans mon pays natal. Ça, ce serait déjà un grand truc. Après, je pourrais peut-être dire Boston au cas où, parce que c'est bon du point de vue historique. J'ai eu l'opportunité, je l'ai pas faite. Tout ce qui est pays froid, c'est vraiment plus mon truc. Je pense que ça serait. Je sais qu'il y a un marathon en Patagonie.
Le mec qui vit en Californie, les pays froids, c'est son truc, alors qu'il vit en Californie où il fait 35 degrés au minimum en hiver.
C'est ironique, hein. C'est ironique. Et il faudrait dire, ouais, je suis venu en Californie parce que j'ai eu l'opportunité de faire une mission en Antarctique. C'était vraiment le truc au départ. Mais bon, ouais, ça serait de faire un marathon en fait en Patagonie, parce que les photos sont sublimes en fait. Le seul problème après que je dirais, c'est par rapport à un peu à ce que j'enseigne et tout, enfin, c'est l'empreinte carbone en fait de faire autant d'heures de vol et tout pour simplement une course à pied. Bon, ça serait peut-être pour inclure dans un peut-être des vacances ou autre, mais malgré tout, ça reste quand même assez polluant, quoi. Donc, à voir entre le rêve et la réalité.
Moi, Hermano, tu en connais ton rêve?
Bah écoute, moi, il y en a tellement des courses que j'ai rêvé de faire. Alors, il y en a une sur laquelle j'ai tiré un trait, c'est l'Ironman d'Hawaï, parce que on peut toujours pas mettre de petits trous sur le vélo, donc ça me paraît difficile d'y aller. En swimrun, je l'ai dit tout à l'heure, Otilo serait sympa, mais Otilo, ça se fait en duo, donc il faut trouver un binôme. Et puis sinon, pour être plus sur les courses à pied, j'étais à Boston en avril 2019, au moment du marathon, où j'avais été rendre visite à ma sœur, mais je ne courais pas parce que je venais de courir Rotterdam, et j'ai vu qu'effectivement, c'était une sacrée course. Alors ma sœur m'a dit que depuis 6 ans qu'elle est à Boston, tous les ans, au moment du marathon, il fait un temps dégueulasse, sauf l'année où il y a eu l'attentat. Moi qui aime pas trop la flotte, je sais pas si finalement j'irai sur Boston. Mais non, mais plus sérieusement, Boston est vraiment un beau marathon, qu'on le vive de l'intérieur ou en tant que spectateur. Donc ça me tente bien aussi. Et puis, tant qu'à faire, les six majeurs, quoi. Donc les six grands marathons. Paris, New York, Boston, Tokyo, et je sais plus les autres. Mais voilà.
Ah, tu veux ta médaille en fait, tu veux la grosse médaille avec les six majeurs, hein, comme ça, hein. Et ouais, et tout.
Exactement.
Non mais c'est vrai, et non mais moi je suis d'accord avec toi Lucie, New York, je crois que c'est ce qui fait rêver la plupart des gens, hein. Moi aussi je vais le dire, c'est super bateau. Sylvain, je suis d'accord avec toi, Paris, ça se fait, hein, franchement, parce que c'est quand même une ambiance... complètement dingue. Pour en parler, j'en ai parlé avec une fille du club qui avait couru des petits marathons, genre Gueugnon ou des trucs comme ça, où il y a 200 participants, où on court tout seul. Paris, quand t'as 50 000 personnes qui poussent, c'est une ambiance qui est totalement différente. Et j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien de Barcelone, je sais pas vous, mais on m'a dit qu'il y a une extrêmement bonne ambiance à Barcelone.
J'en ai entendu beaucoup de bien aussi, ouais.
Et Lisbonne aussi, où il paraît que c'est vraiment un endroit qui est vraiment remarquable, hein, voilà. Mais après, c'est vrai que sur cette histoire d'empreinte carbone et de pollution, je sais que Diane, toi, tu es particulièrement sensible. Alors, un jour, on fera un épisode sur le sujet. Parce que quand même, il y a des trucs, hein, quand on regarde, hein, en tant que coureur, on doit se poser la question de savoir si finalement, on n'est pas un peu des pollueurs. Hein.
Bah, j'en parlais encore ce matin, je crois, où justement, on se disait qu'on n'entend plus trop parler de Kylian Jornet, en tout cas sur les courses. Mais effectivement, c'est parce qu'il a... Il a compris que son empreinte carbone était un petit peu misérable quand le gars se bat pour la planète, mais qu'en réalité il va courir des ultra trails un peu partout autour de la planète. Donc effectivement, c'est un peu le problème du coureur qui veut faire des courses plaisir, mais qui traverse le globe.
Ouais, et puis Diane, tu m'as envoyé des liens qui étaient intéressants, on en reparlera, hein, mais sur finalement, on se rend pas compte, nos textiles, nos chaussures, en fait, on est des pollueurs sur pattes.
Oui, parce qu'il y a l'aspect prendre l'avion pour se rendre aux courses, mais il y a aussi ce qu'on a sur soi, en fait, qu'on utilise. Il y a, en tout cas en Norvège, en Scandinavie, et je pense qu'il y a aussi des études qui ont montré, on a des ONG ici très sensibles à ça, qui montrent que le plastique, la gomme des baskets qui s'échappe, là, ça crée des microplastiques qui finissent dans le ventre des poissons, qui polluent les mers, et pareil, les fibres des vêtements, toutes ces matières qui sont imprégnées pour rendre les vêtements imperméables ou autre chose, c'est des gros polluants à la fois pour soi, pour son corps, mais aussi pour la nature, parce que ça se répand en fait, les fibres. Et ça, il y a, quand on achète ces produits-là, on n'est pas forcément informé, bien sûr, mais ici, en Norvège, c'est un sujet qui est très, comment dire, très suivi, parce que c'est un des pays au monde, en fait, où on a plus de, ils sont très consommateurs de vêtements outdoor. Lui qui passe beaucoup de temps dehors, peu importe la météo, des gros consommateurs de ce genre de produits. Et donc, voilà, c'est un thème qui est très surveillé et qui devrait l'être partout, en fait.
Et du coup, tu nous en avais parlé dans un cappuccino, enfin dans des cappuccinos, et même pour faire du sport, ils utilisent de la laine, en fait.
Ouais, exact. On a une marque, je ne sais pas si je dois citer des marques ici, en tout cas, je ne suis pas sponsorisée, mais on a quelques marques de sport norvégiennes. Je sais pas si vous avez en France, pour certaines, qui sont des tissus en laine très fins comme mon t-shirt. Mais tu mets ça été ou hiver, et en fait, l'été, ça laisse passer la transpiration, et l'hiver, ça garde la chaleur. Ça, c'est vraiment une matière géniale, en fait, pour le
Gore-Tex. Bah, c'est le Gore-Tex, quoi.
Ouais, mais c'est que c'est une fibre. Le Gore-Tex, je sais pas vraiment quoi c'est fin, en fait. Mais c'est une matière ici qui est... on a des usines locales d'ailleurs qui développent ce genre de produits et qui sont vraiment super pour l'environnement et puis pour nous. Et ça se lave, ça s'entretient très facilement. Enfin, c'est à tester.
J'ai lu des tests, hein. Je ne sais pas si vous avez des produits fétiches. On va en parler, on finira sur l'histoire des produits fétiches. Mais j'ai vu des gens qui couraient notamment avec des chaussettes en laine, alors que moi j'ai pas idée, mais j'ai vu des gens qui couraient avec des il y a des chaussettes en alors je sais plus quelle laine etc qui sont super efficaces, mais même dans le chaud en fait, pour courir dans le désert etc, qui se sont rendus compte que c'était le meilleur équipement. Alors c'est ce qui me permet de faire la transition directement à le faire avec l'équipement. Je suis sûr que vous avez en tant que coureur un espèce de petit produit fétiche. Ça peut être une marque, ça peut être dire ces baskets là je les adore, ce truc là je l'adore, etc. Je suis sûr que vous avez un espèce de petit truc comme ça. Enfin, franchement, qui vous dites ça, je l'adore, quoi. C'est mon truc de coureur à moi, j'adore ce truc-là.
Moi, j'ai pas de produit fétiche, en fait. J'ai pas de produit fétiche. J'ai mes petites tenues que j'aime bien mettre pour aller courir et donc que je nettoie régulièrement pour pouvoir les porter assez régulièrement, vu qu'en même temps, quand tu cours tous les jours, au bout d'un moment, ça commence à être dur d'avoir cette tenue d'avance. Mais non, j'ai pas de vraie tenue fétiche. Par contre, j'aime bien avoir mon matos propre et spécifique à la course à pied.
Moi, j'étais en train de réfléchir. C'est un accessoire. En fait, moi, c'est mon bandeau. J'en ai un au cas que j'avais gagné d'ailleurs sur un salon. Et là, je me suis acheté un compresse-port, et c'est vrai que bon, pour ceux qui ont la vidéo, moi, j'ai une chevelure assez, assez particulière et indisciplinée. Et c'est vrai que voilà, c'est surtout ouais, le gadget un peu, mais quand même l'accessoire sans lequel je suis un peu moins bien pour courir. Après, c'est vrai qu'au niveau des chaussures, enfin moi je suis très, j'aime bien le confort, donc je privilégie, c'est vrai, le confort. Enfin, j'ai pas de marque préférée, mais voilà, en termes de confort, pour moi c'est ma chevelure et donc c'est mon bandeau de course. Voilà, ça c'est mon gadget, et si je l'ai pas le matin quand il faut aller courir, je suis capable de
rebrousser chemin pour aller chercher le bandeau.
Oui, et de passer trois fois plus de temps à chercher dans mes affaires ce bandeau c'est quand même quelque chose pour moi d'indispensable. Et en plus, voilà, quand on habite au bord de l'eau, c'est avec le vent qu'il y a parfois au Havre, c'est mieux d'avoir ce petit bandeau. Voilà, c'est mon côté très, comment dire, superficiel, mais très indispensable.
Sylvain, Christophe, vous avez un petit truc, vous, un petit truc qui...
Ouais, petit, je ne sais pas si on peut dire petit, mais en tout cas, je me balade toujours avec une photo de mon idole, mon modèle, mon héros, et je m'agenouille devant, en fait, et voilà, quoi, une photo d'Hermano à chaque fois que je vais courir. C'est vraiment gentil.
Je croyais que tu allais dire une photo de Bertrand.
J'avais envie de relancer le sarcasme après que tu m'aies sur l'histoire de la Californie et des pays froids, parce que celle-là était bonne. Je pense que, non, plus sérieusement, les shorts de compression. Je sais qu'on a eu beaucoup de discussions dans les cappuccinos où on parlait de nos petits problèmes. Et on a quelques équipes, on a ce qu'on appelle les teams irritation et compagnie. Mais ouais, les shorts de compression, en tout cas, ouais, c'est vraiment le truc, de mon côté en tout cas, je pourrais pas courir sans ça, on va dire. Et on a parlé beaucoup de vêtements, chaussures ou autres. Et à un moment, on est arrivé on n'a pas... au niveau vestimentaire, quel était l'essentiel?
Alors moi, je réfléchissais pendant tout ce temps-là. Alors vêtements, non, j'ai pas de vêtements fétiches. Par contre, j'avoue que s'il y a un truc que j'oublie de recharger, parce qu'il faut recharger, c'est mon casque Bluetooth pour écouter de la musique ou des podcasts. Et c'est un casque à conduction osseuse. Je vais pas citer la marque, on s'en fiche, mais je trouve que voilà, ça me permet d'écouter quelque chose et d'être attentif aussi à mon environnement, parce qu'avec les voitures, ça peut être parfois dangereux. Et voilà, je ne me vois plus faire une sortie sans avoir quelque chose dans les oreilles et sans ce casque-là, parce qu'en termes de sécurité, il y a un gain fantastique, quoi.
Je suis d'accord. C'est un truc sur lequel je suis en train de regarder un investissement potentiel. Parce que des fois, j'avais dit, moi, ça fait... 7 mois, 8 mois que mes écouteurs ont rendu l'âme, et ben vous savez quoi, ils ont redémarré l'autre jour. à force de leur dire, au moins de les jeter à la poubelle, je les ai rechargés. Je dis, ils remarchent. Donc, on sait jamais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Ça fait partie des outils qui, pour les coureurs, plutôt que d'avoir les écouteurs où on n'entend plus rien, ça peut être intéressant. Surtout quand on fait du trail, où finalement on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on loupe, les petits bruits des animaux, des petits, tout un tas de petites choses comme ça. Diane, tu nous as pas dit, toi, si t'avais un petit truc fétiche, un petit, t'es découvert un petit truc.
À part la laine légère, là, qui est indispensable, quand j'y pense avec le climat qu'on a ici, si je veux sortir, il faut que je me confronte au vent, ou vu qu'on est sur la côte aussi, donc ça, c'est clair. Mais sinon, il y a un truc, je sais que ça va être fétiche le jour où je vais acheter, et c'est les lacets en silicone. Et j'en ai offert, j'en ai acheté à offrir, mais je sens que c'est le truc qui va me, qui va vraiment me changer la vie, mais qui, ouais, que je vais bien apprécier, ça j'en suis certaine.
Mortel, c'est mortel.
J'ai hâte de tester ça.
Hermano, tu es passé au lacet silicone ?
Ouais, ouais, je suis passé au Gorilla Trab. Il y a au tout début où t'en parlais, avant même que tu fasses les épisodes.
Ah, mais je savais pas. Alors, je vais vous dire un truc, parce que quand même, c'est que pour Noël, t'en as eu pour Noël ou pas?
J'ai dû les acheter un peu avant.
Ah non, ta fille m'avait demandé un conseil, une idée de cadeau de Noël, et je lui ai dit, achète-lui des lacets silicone.
Ah, d'accord.
Ouais, voilà. Donc.
Bah écoute, j'ai dû les acheter avant, alors parce que du coup, j'avais pris carrément le pack de 5 et donc elle a dû, je pense, chercher autre chose.
Bon, et ben vous voyez comme quoi, il y a des trucs comme ça, des petits trucs, mais je suis d'accord avec les lacets silicone, mais je vais vous dire un truc quand même, c'est que moi, je suis en train, mes sandales, l'autre jour, j'ai quand même découvert un nouveau truc, je dis, oh, c'est quand même un truc incroyable. Et puis, moi, mon petit objet fétiche, c'est ma casquette. Alors, elle est totalement défoncée. Je peux vous garantir qu'il n'y a plus de visière, il n'y a plus rien. Elle pue. Oh, mais incroyable. Mais je ne sais pas combien de kilomètres elle a fait. Hein, franchement, ça doit faire 4 ans, 3 ans, 4 ans que j'ai cette casquette. Elle pue. Enfin, même en la lavant, même en lui mettant... Tu sais, au marathon de Paris, j'avais gagné des petites boules de lessive qui sont censées sentir bon. Et ben, même avec ça, elle sent la transpiration. Tellement j'ai fait des kilomètres. Mais si vous avez remarqué mes photos... Dès que j'ai remis mes baskets pour les courir après l'opération, j'ai remis ma casquette. Hein, un peu partie des trucs. Et donc, voilà, moi, j'ai mon petit objet fétiche. C'est ma casquette, c'est comme ça. Un jour, je vais la changer, hein, parce que quand j'en aurai marre de l'odeur, que tout le monde me sente à distance, j'en changerai. Mais en tout cas, c'est partie de l'objet fétiche. Bon, mes amis, sur ce, je vous propose quand même qu'on va faire une petite conclusion, parce que ça fait une petite heure, là, comme ça, qu'on discute, qu'on papote, etc. On a donc parlé un petit peu de d'où on vient, quels sont nos grands projets, etc. J'ai envie de dire quand même, quelqu'un qui court pas en ce moment, vous dites, enfin qui, on reparlait tout à l'heure comment vous êtes un peu des ambassadeurs de la course, vous êtes devenus un petit peu des gens comme ça. Et finalement, qu'est-ce que vous dites aux gens autour de vous, l'idée principale, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais l'idée principale, vous dites, finalement, si je courais pas, qu'est-ce qui vous manquerait le plus si, quand vous ne courez pas ou si vous ne courriez pas? Maintenant que vous êtes des coureurs et que vous courez régulièrement.
Je pense, de mon côté, ça serait le... Enfin, je ferai peut-être une aide au niveau de la traduction. Mais ce qui s'appelle ici le me time, c'est le temps pour moi, le temps à moi. C'est vraiment, je m'en vais une demi-heure, une heure, deux heures, ça dépend de l'entraînement. Et c'est vraiment le temps où tu es tout seul, rien qu'avec toi. Et pendant ce temps-là, il y a personne pour t'interrompre et personne pour te... Voilà, aux alentours. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait que dans un sens, on revient, enfin, on a les endorphines peut-être, on a le côté physique, mais vraiment aussi mentalement, on peut écouter peut-être quelque chose, mais c'est vraiment, ouais, c'est, on n'a rien qu'avec nous et dans nos pensées. Et ça fait du bien.
Oui, c'est ce que je dirais, ouais. Ça permet de prendre du temps pour soi. Dans un monde où au final on est surchargé, où on court toujours finalement après le temps, mais bon, pour tout caser dans 24 heures au niveau du travail, de la vie personnelle et tout ça. Et ça, c'est un temps à part, c'est une parenthèse, c'est une bulle pour soi. Et s'autoriser à prendre du temps pour soi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et une fois qu'on y a goûté, c'est vrai que... Voilà, et puis découvrir aussi la ville endormie, ou voilà, ces petits moments où on a l'impression d'avoir la ville ou le paysage rien que pour soi, d'avoir un lever de soleil sur la mer et sur la plage où il n'y a vraiment personne. Voilà, c'est des petits moments comme ça hors du temps. Et ça, pour. Enfin, voilà, c'est vraiment magnifique.
Diane, Christophe.
Ce serait vraiment une occasion de rater. Non, pardon. Ce serait vraiment raté plutôt. Ce serait vraiment raté une occasion de se forcer entre guillemets à prendre soin de soi en fait, et puis de reconnecter aussi avec avec l'extérieur, quoi, le monde qui nous entoure de façon très brute en fait, de façon très directe, qui fait vachement de bien. Ce serait ça.
Bon, moi, je rejoins également les copains et copines là en disant que effectivement c'est un moment pour soi. C'est comme le disait Lucie, c'est voilà une bulle, un moment rien pour soi. Et si j'avais pas ça, je sais que je serais pas bien. Et voilà, c'est vraiment le moment où moi je sais que je suis un ours, un peu dans le caractère, et j'ai besoin de ce moment-là.
Pierre Manot.
Ouais, je dirais que comme disaient les jeunes de mon époque, je plus sois tout ce qui a déjà été dit. Et puis il y a une chose que j'apprécie à chaque fois. C'est repérer les changements dans mes petits parcours de course à pied entre l'automne, le printemps, l'été, l'hiver. Quand tu te rends compte que bah, même quand tu cours tous les jours, il y a deux jours sur ce parcours-là, il y avait un arbre en fleurs et puis le lendemain, et bah, il a perdu ses fleurs. Ou alors il était justement sans fleurs et puis il commence à fleurir un peu, on voit les bourgeons qui apparaissent. Et ça, c'est juste un bonheur magnifique. Ça te rappelle aussi que il n'y a pas que les êtres humains qui sont des vivants, mais tout ce qui est autour de toi bouge et vit et évolue dans un écosystème.
Ouais, alors sur cette pensée extrêmement philosophique et liée à la nature, je ne sais plus quoi dire, Hermano. Non mais en fait, tu as tellement raison. Non mais c'est vrai en fait. Alors on enregistre ce soir. Nous sommes le 20. Demain, je diffuse un épisode de sport et nutrition avec le professeur François Carré, dans lequel il rappelle que nous sommes des hommes préhistoriques à l'origine et que le lien avec la nature, comment on est fait, on a besoin en fait de mouvement, on a besoin de sport, parce que tout notre corps fonctionne sur ce principe-là, qu'en fait on a besoin de bouger. C'est juste en fait qu'on l'a totalement oublié avec les sédentarités, avec nos rythmes de vie, avec nos chaises sur lesquelles on est assis ce soir, un petit peu avachi, etc., comme ça. Et ben en fait, la course à pied vient nous rappeler que finalement, nous sommes des êtres de mouvement, de muscles, et que de respiration, et qu'on doit bouger, et que quand on bouge, ben on se trouve mieux, et que c'est un petit peu, vous savez, l'hymne de... Enfin, on ne pourrait pas dire l'hymne, mais un petit peu le slogan de Kilomètre 42. Et ben je suis bien content qu'on débouche sur cette conclusion commune, en tout cas, et je vous remercie tous pour votre participation. Alors, ce que je vous propose, on va faire un dernier petit tour de table, comme ça, on va faire un dernier tour du monde. Prochaine séance de course que vous faites, qu'est-ce que vous allez courir? Est-ce qu'il y a un truc que vous préparez, là? Vous allez faire quoi? Vous allez faire 1 km, 2 km? Est-ce qu'il y a un truc qui vous titille, là, que vous êtes en train de préparer?
Ben moi, je prépare ma reprise, voilà. Après un mois sans course, voilà, c'est fou. Je vais courir, je pense... 10 fois 1 minute, un truc de fou, en alternant marche et course. Donc voilà, et je pense que je serais aussi heureuse que si j'avais parcouru 15 ou 20 kilomètres en fait. Donc voilà, l'objectif c'est ça, et de courir, waouh, si j'arrive à courir 2 kilomètres sans avoir mal et tout, ça sera vraiment merveilleux.
Moi j'essaye de continuer mon programme là sur 12 semaines, j'en suis au milieu de la 7e et franchement je suis trop fière, sauf que là je commence à avoir un petit peu mal quand même. Donc, il faut que je revoie mes méthodes d'échauffement. J'ai eu plein de bons conseils dans la communauté là, donc je vais m'y appliquer. Et puis la prochaine sortie c'est censé être demain en fait, et c'est 4 fois 4 minutes à refaire avec une pause de 15 secondes entre chaque. Et pour moi, c'est déjà vachement beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça va le faire.
Sylvain ?
Ouais, j'ai une sortie cet après-midi, puisque bon, de nouveau ici, il est 1h45 d'après-midi, décalage horaire. Je vais faire simplement une demi-heure avec le club local. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et je ne les reverrai pas non plus cet été, puisque j'enseignerai à l'heure où ils se rencontrent. Mais j'attends plus la séance de demain et de dimanche où je me fais deux sorties longues. Enfin, actuellement, mes sorties longues sont à peine d'une heure, quoi. Mais bon, voilà, au moins une heure d'échappée en début de matinée.
Christophe ?
Donc moi, pour ma part, demain, ce sera une petite séance, on va dire, du fractionné long. En fait, pour préparer justement la petite course virtuelle que je fais à la fin du mois. Donc, où il sera question de courir un maximum de kilomètres en une heure. Donc demain, je fais une séance où je vais faire des kilomètres entiers, avec des kilomètres de repos entre deux, courus aux alentours de 4h30, 4h45. Voilà pour l'objectif de demain.
Et Hermano, toi qui cours tous les jours?
Moi, je sors de 3 semaines de pause parce que j'étais malade. J'ai repris lundi. Lundi, mardi, j'ai fait une pause mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Il y avait Olivier de Scooter, avec qui je co-anime le podcast Devenir Triathlète, que j'ai emmené courir dans mes terres. Il m'a juste défoncé. On a fait 12 km, 350 mètres de D+, à 4,40. Je suis mort. Donc demain, ce sera sortie longue en endurance fondamentale, un petit 12 ou 15. Tranquille.
Eh bien, écoutez, vous allez tous courir plus que moi, parce que moi, demain, c'est 6 fois 2 minutes.
En sandales. Oui, mais tu sors d'une opération, c'est normal.
En sandales, les pieds dans les pâquerettes. J'ai repéré un champ de pâquerettes pour aller faire une photo dedans et mettre mes pieds avec mes sandales, vous voyez. Donc, ça sera mon objectif de demain. Et en tout cas, je vous raconterai ça prochainement. Je vais essayer de faire des petites vidéos. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir fêté ce numéro 100 avec moi. Comme je disais au début de l'épisode, je pensais pas arriver un jour à l'épisode 100 de Kilomètre 42, et je pensais pas qu'il y aurait une communauté qui se formerait, qu'on serait tous à discuter, papoter comme ça de nos objectifs, etc. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir pu partager ce moment avec vous. Je vous souhaite à tous de beaux entraînements, des belles courses, des beaux objectifs. Et puis on se donne rendez-vous pour le numéro 200
ou 1000. Mais à la vitesse où croit la communauté, le numéro 200 avec 2000 personnes autour de la table virtuelle, ça va être compliqué.
Oui, mais tu sais quoi, on sera au marathon de New York tous ensemble.
Allez.
Grâce aux sponsors qui nous sponsoriseront, on arrivera à payer on ira partir au marathon de New York tous ensemble. On louera un grand bus jaune aux États-Unis comme ça, et on fera le tour des marathons américains.
Super, je signe.
Ce sera notre joli projet pour l'épisode 200. Allez, sur ces belles paroles, je vous remercie encore tous. Et on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et alors, je peux vous annoncer déjà l'invité de la semaine prochaine, c'est qu'on parlera de grossesse, de course à pied après l'accouchement. Alors, c'est pas moi le spécialiste, j'ai invité une spécialiste du domaine, qui vraiment parlera aussi de yoga, parce qu'on va parler un petit peu de yoga, de course à pied, etc. Donc, vous verrez ça pour l'épisode 101. Et la semaine prochaine, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite à tous beaux entraînements, merci à tous d'avoir fêté ce numéro 100 avec moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
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 Salut, salut.
Bisous et joyeux anniversaire pour le 100e.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.